De fiers voyageurs, monsieur et madame Farnès, 10 ans auparavant, des voyageurs intrépides, infatigables, assoiffés de nouveau, et toujours, toujours à la recherche des endroits peu connus, ou même pas connus du tout. C'était des joies d'échapper de collège à chaque trouvaille originale, à chaque pays neuf, encore vierge des regards des touristes. En Bretagne, à cette époque, on avait de ces surprises-là. Leur voyage de noces durait depuis 3 mois, sans qu'ils fussent là ni rassasiés de belle nature. De Cherbourg à Brest, pas un coin, pas un bout de côte ne leur avait échappé. Ils avaient poussé jusqu'à Pounet-Hourtraise, Brignogan, Kersin, Lanildut, Le Conquet, Camaret, la pointe du Raz, se laissant attirer par un nom original, par l'excentricité d'une découpure sur la carte. La mignonne partout ouvrait des yeux d'un si joli bleu de myosotis que Henri Farnès ne pouvait se fatiguer de les lui faire ouvrir plus grands, encore plus grands, pour les mieux clore sous ses baisers. Et Charlotte prenait de plus en plus goût à l'expérience. À Quimper, ils eurent bientôt tout vu, le musée, Saint-Corentin, la promenade, l'Odée, où aller. Les voilà dans leur chambre de l'hôtel de l'Épée, à étudier la carte, leur fameuse carte, pour trouver des villages ignorés, des noms à consonance séduisante. Plus c'était bizarre, plus elle est tentée, comme ces fruits exotiques qu'on mange par curiosité, et qui tantôt vous ravissent par leur saveur étrange, tantôt vous punissent de les avoir goûtés. Le matin, Charlotte s'était réveillée avec l'idée fixe de manger des sardines, pas des sardines à l'huile, mais des sardines fraîches, et Henri, devant son désir, avait cédé. En outre, il les lui fallait sur place, au bord de la mer. On cherchait donc ensemble un port, un endroit à sardines, qui ne fût ni Douarnenez, ni Concarneau, ni Lorient. Des pays classiques, cela, pas leur affaire du tout, à eux, les chercheurs d'imprévus. Tout à coup, Henri tomba en arrêt sur un nom presque illisible, vers l'extrémité méridionale de la baie d'Audierne. Avec sa loupe, il lut lentement « Le Guilvinec ».« Oh, le joli nom !» fit-elle en battant des mains. « Pas commun, en effet. Est-ce un endroit à sardines ?» Ah, voilà. Consultée sur ce grave sujet, la patronne répondit affirmativement. Elle savait que par là, il y avait une friturerie, des barques de pêche. Quant au pays par lui-même, elle n'y avait jamais été et ne possédait sur lui aucun renseignement. C'est généralement ce qui surprend et en colère toujours le Parisien, cette ignorance des gens vis-à-vis des localités plus ou moins avoisinantes des villes qu'ils habitent. Allez donc, en revanche, demander aux Parisiens s'ils connaissent tel ou tel village des environs de Paris, ceux que les étrangers visitent et dont nous ne savons même pas les noms, hein ? La nature humaine, drôle de chose tout de même. Ha, Parisien, Parisien. Donc, à Quimper, on ignorait le Guilvinec. On savait tout au plus que cela nichait dans les parages d'Audierne, de Pinmar, quelque part par là. Trouve-t-on à loger, à manger ? Ah, dame, vous en demandez trop. Comment s'y rend-on ? Peut-être bien qu'à Pont-l'Abbé, vous sauriez mieux. Va pour Pont-l'Abbé, nous laisserons jusqu'à nouvel ordre nos bagages ici. Il y avait justement un petit omnibus faisant la correspondance et partant de Quimper le soir même à 5 heures. Les deux jeunes gens s'y installent et en route pour Pont-l'Abbé, le pays des pittoresques costumes, des coiffes extraordinaires. De 5 heures à 8 heures, ils firent durement les 4 lieues et demie dans cette boîte antique tintamarrant la ferraille, puant la paille mouillée, le rance, l'odieux véhicule dont les derniers échantillons semblent s'être réfugiés en Bretagne, et ils en sortirent tant soit peu meurtris, moulus, contusionnés, pour descendre à l'hôtel des voyageurs. Après un dîner passable, une nuit sans trop d'insectes, un coup d'œil rapide à Pont-l'Abbé, le lendemain, ils recommencèrent leurs questions. « Le Guilvinec, vous connaissez ?» Ah, que oui, certainement. On y mange, on y habite. Mais d'où les gens y vivent? Bah, le meilleur moyen de savoir, c'est encore d'y aller, dit Henri en riant à sa femme, et ils convinrent de partir immédiatement. Le jeune homme se mit en quête d'une voiture. Il n'y en avait qu'une dans le pays, le char à banc du boucher. Par malchance, un étranger venait de le louer, le retenant pour lui tout seul. Charlotte faisait la moue. Un gourmand, un accapareur, ce touriste inconnu, un Anglais pour sûr. Henri, désolé, complotait de séduire le boucher, de lui acheter au besoin son véhicule. Enfin, il se résigna, contre cœur, à essayer d'entrer en accommodement avec le voyageur. On lui indiqua un grand gaillard brun en train de solder sa note au bureau de l'hôtel. Henri Farnès s'avança, maussade et l'abordant, demanda. « Monsieur, on m'a dit que... » L'autre se retourna. Deux cris. « Henri, Jacques, toi ici, et toi ?» Un camarade de collège, un architecte. On s'expliqua. Jacques Delors voulait céder le char à banc. L'autre refusa. Pas du tout. On ferait le voyage à trois. Ce serait bien plus amusant, d'autant qu'on ne savait pas où on allait, un trou que personne ne connaissait. J'accepte, conclut Delort. Tu me connais, je sais me remuer, je suis débrouillard. S'il y a des difficultés, tu verras. Charlotte fut enchantée. Le tête-à-tête était exquis, même au bout de 3 mois. Mais bah, cela ferait diversion et on le trouverait meilleur encore après. Puis l'ami Jacques semblait si gai, si bon enfant, si grand enfant surtout. On allait s'entendre à merveille. Quel voyage dans cette carriole sautelante, nullement rembourrée, conduite à sifflante volée de coups de fouet, sous lesquels s'ébrouait un drôle de petit cheval poilu à crinière ébouriffée,
cabrioleur comme une chèvre et que son maître ne retenait jamais.
On chanta tout le temps. Jacques Delors connaissait toutes les complaintes, toutes les scies d'atelier, tous les grands airs d'opéra, toutes les musiqueries d'opérette. Il en abreuva les landes bretonnes. « Mais vous serez enroué en arrivant, arrêtez-vous !» s'exclamait la jeune femme riant aux larmes à quelques cocasseries nouvelles entonnées à tue-tête par le joyeux garçon. « Laissez, laissez, madame, c'est nécessaire à ma santé, demandez plutôt à Henri. » De fait, cela semblait faire partie de son être, de sa vie, ce débordement musical, cette intempérance de chant. On y sentait une sincère exubérance de jeunesse, de gaieté, de santé, si puissante qu'elle vous gagnait peu à peu. Tous trois chantaient quand devant eux ils aperçurent assez loin la mer, une côte plate, quelques bouts de roches, une dizaine de maisons, cahutes de pêcheurs, un mince pays, l'aspect peu pittoresque et misérable. « Comment nommez-vous cela ?» demanda Henri au conducteur, un petit homme trapu, le cou dans les épaules, le grand feutre cachant la tignasse noire. « Le Guilvinec !» Les voyageurs firent ensemble un bond de stupéfaction et s'entre-regardèrent saisis. « Hein, ça ? Mais ce n'est pas habitable !» « Je sais pas, moi. J'y suis jamais descendu. »« Alors, où nous conduisez-vous »« Où vous voudrez. Il y a Kéradenec. »« Qui ça, Kéradenec ?»« Celui qui donne à boire et l'avoine. »« Une auberge ?»« Tout est sauvé. »« une auberge !» grommela Jacques. « C'est pas bien sûr, tous les Bretons donnent à boire. Ce n'est pas une raison. » Ils s'arrêtèrent devant une maison à un étage, un peu mieux construite que les autres. Au-dessus de la porte, on voyait la touffe de genêts caractéristiques. Ils s'arrêtèrent devant une maison à un étage, un peu mieux construite que les autres. Au-dessus de la porte, on voyait la touffe de genêts caractéristiques, indiquant le débit de boisson. Le conducteur, une fois payé, repartit aussitôt. « Comment ? Il nous quitte ?» demanda Charlotte, inquiète de ce départ précipité. « Il ne pouvait faire qu'aller revenir, pensait madame, c'est le seul boucher de Pont-l'Abbé. Du reste, nous n'avons pas besoin de lui, il doit revenir demain matin seulement. » « Et si on ne peut nous recevoir, on dirait qu'il n'y a personne dans cette maison. »« Bof, bah, on s'arrangera toujours, ne craignez rien. »« Moi d'abord, je meurs de faim, je déjeunerai volontiers, commença Henri. »« Eh bien, n'ayez pas peur, on va déjeuner et gentiment, je m'en charge, vous allez voir. » Pénétrant dans la maison le premier, il invita ses compagnons à le suivre et après les avoir fait s'asseoir dans la grande salle de grosses tables pleines et de tabourets de paille, cria rudement « Hola, ho, patron, patron, Kéradenec !»